Show est le podcast référent sur Chrome OS. Dans ce rendez-vous mensuel, nous abordons tous les sujets liés de près ou de loin à l'univers Google et partageons avec bonne humeur nos découvertes, nos échanges et surtout nos coups de gueule. Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Sakabé Show. Et aujourd'hui c'est un peu particulier puisque c'est la fin des vacances et on a réussi à se retrouver, Thomas et moi, pour enregistrer de nouveau des épisodes. Alors vous l'avez vu, la dernière fois on a fait un épisode un petit peu particulier, j'étais dans ma voiture en mouvement, en déplacement, j'allais me balader un petit peu sur la région parisienne, donc le son était un petit peu moins bon que celui-ci, mais cette fois on retrouve nos habitudes, un beau vieux micro, un Chromebook et puis une connexion internet parce que on échange toujours à distance. Donc pendant ces vacances, pourquoi Thomas n'était pas là, je vous en parle rapidement. Mais avant, je vais vous représenter Thomas parce qu'il y a eu un petit changement. Alors cette fois maintenant, Thomas, c'est l'homme de la situation parce que c'est l'homme au centre de la technologie. Ce n'est pas compliqué. Si vous parlez technologie, vous pensez Thomas. Il est maintenant à 7 minutes de Google, à moins de 20 minutes des quartiers d'Amazon et à moins de 15 minutes de Redmond. Thomas, il s'est déplacé et maintenant c'est lui. C'est lui qui va faire l'actualité, la pluie et le beau temps sur la technologie. Salut Thomas, comment vas-tu?
Mais quelle intro, Nico, quelle intro. Je suis tout chose. Je t'en avais vaguement parlé dans l'épisode que tu as enregistré en solo la dernière fois. C'est vrai que j'ai pas été super disponible ces dernières semaines parce que j'ai déménagé en fait, après avoir passé un peu plus de, pas tout à fait 8 ans. À San Francisco, j'ai déménagé pour, comme tu le dis, me retrouver un tout petit peu plus, un peu plus près de chez Microsoft et Amazon, puisque je suis maintenant à Seattle. Donc Seattle, en gros, si vous regardez la carte des États-Unis, c'est toujours sur la côte ouest, toujours sur la côte pacifique. Mais en fait, c'est tout en haut à gauche, juste avant la frontière du Canada. Et donc, comme tu le dis, en fait, on pense beaucoup à la Silicon Valley, on pense un peu à Seattle en général quand on parle de technologie. Mais c'est vrai que là, je suis quand même dans un endroit où il y a autour de moi beaucoup de tech et finalement, ça change pas les masses. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans la technologie, un peu comme c'était le cas déjà quand j'étais à San Francisco. Donc voilà. Donc écoute, on a une température un petit peu plus, un tout petit peu, enfin un temps un peu plus tempéré, un climat un peu plus tempéré, un peu comme chez vous en France. Donc je pense qu'on aura le droit à avoir un peu plus froid l'hiver. Mais en ce moment, c'est l'été. Il fait gros soleil. Donc voilà.
C'est parfait, c'est génial. Bon, c'est un peu le feu en ce moment, comme on disait avant la préparation, mais c'est pas mal quand même comme lieu. Je t'envie quand même un petit peu d'être là-bas et moi d'être ici.
ouais, comme tu le dis, il y a des incendies en ce moment sur toute la côte pacifique en Californie, dans l'Oregon et aussi dans l'État de Washington, donc ici à Seattle. Et comme tu le dis, là, tu vois, le soleil se lève et le soleil est rouge. Il y a des photos assez incroyables, si vous voulez prendre le temps de les regarder. Le soleil est rouge, rose. Et en fait, c'est parce qu'il y a tellement de fumée dans l'atmosphère que, à cause des feux de forêt, que le soleil change de couleur au lever du soleil. Donc, c'est un peu flippant. J'espère que ça ne durera pas longtemps. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'incendies autour de la région de Seattle.
Bon, j'espère que vous allez vous en sortir tous en bonne forme et puis qu'on partira sur de nouvelles aventures plus palpitantes que juste des incendies, parce que ça, c'est pas terrible. En tout cas, la technologie a évolué, elle n'a pas attendu que le bois brûle ou que tu déménages, hein. On n'a pas attendu la fin des vacances pour parler de plein de choses, pour faire évoluer nos Chromebooks, Chrome OS et toute la tech qui va autour. Et ben nous, on en a profité de notre côté pour modifier My Chromebook. Je ne sais pas si tu l'as vu, on lui a fait une petite cure de jouvence, on a refait la façade, ça nous a pris un peu de temps. Et j'espère que tout le monde l'a vu parce que j'ai passé pas mal d'heures dessus. Et on a fait une petite cure de jouvence au site internet et maintenant il est compatible normalement avec tous les écrans, qu'ils soient tactiles ou pas, qu'ils soient smartphone, tablette ou Chromebook ou même Windows. Je crois que ça doit marcher sur Windows. Ça doit également marcher sur Apple, ça je ne sais pas, peut-être qu'Apple, enfin oui, ça doit marcher. Et en plus, j'en ai profité pour le passer en, comment on appelle ça, PWA, Progressive Web App. Donc, quand vous allez sur votre navigateur Chrome, vous pouvez installer My Chromebook directement sur votre ordinateur et ce, sur tous les systèmes d'exploitation. Donc, vous aurez directement l'icône sur votre bureau et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour vous rendre sur le site Internet. Et ça, c'est juste génial.
Parfait, super.
Ouais, et en plus, en ce moment, c'est le feu aussi sur la technologie. Et je voulais lancer, je voulais en profiter de ce nouvel épisode du CKB Show pour lancer un appel au postulat. Si vous avez l'âme d'un écrivain, vous êtes poète dans l'âme, vous avez la plume facile, je recherche des personnes qui seraient... qui auraient envie de partager leur passion pour les Chromebooks, pour Chrome OS, pour la technologie la technologie en général, parce qu'aujourd'hui, je n'ai malheureusement plus le temps d'écrire tout ce qui se passe, donc je suis obligé de faire l'impasse sur certaines news, certaines informations, pas parce que j'en ai envie, mais parce que je n'ai pas le temps de traiter tout. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire avec vos coordonnées, laissez-moi sur Twitter... Vos coordonnées, laissez-moi un petit message et je serai très heureux d'échanger avec vous. Et puis si on peut trouver une solution pour qu'on travaille tous ensemble, main dans la main, dans le meilleur des mondes, celui de Google évidemment, je serai très heureux de vous accueillir auprès de moi, auprès de nous. On est une équipe assez sympathique. Alors, on est une équipe bénévole assez sympathique. Je vais rajouter ce mot-là parce que malheureusement, nous n'avons pas les capacités de payer des rédacteurs. Donc, si jamais ça se passe bien, on changera notre fusil d'épaule. Mais en attendant, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit mail sur contact@mycrombook.fr via Twitter, Facebook, Google+, ou sur le site. Enfin, bref, vous saurez me retrouver pour me dire que vous avez envie de partager. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose parce qu'on va aller directement dans la technologie. Ça te va, Soma ? On attaque dans le dur ?
Oh non, je voulais parler cuisine, moi.
On peut en parler si tu veux. Alors du coup, tu chamboules mon prompteur, mais c'est pas grave.
Non, ok. Bon, ok. On va dire que cette fois-ci, on parle technologie, on parlera cuisine la prochaine fois.
D'accord, bon, ok. mais cela dit, t'es pas si loin parce que je vais parler d'un truc qui est arrivé il y a pas si longtemps et qui parle de cuisine indirectement. Sais-tu ? Non, tu le sais pas, toi, t'es de l'autre côté, t'es dans le pays du monsieur méchant qui est président là. Tu sais que maintenant, Google a son premier Google Shop en France ?
Eh bien, écoute, vu qu'on a préparé l'émission un tout petit peu avant d'enregistrer, je le sais maintenant, mais pour être très honnête, ouais, il y a un quart d'heure, je ne le savais pas.
Et t'as vu les photos, donc ce Google Shop, donc c'est suite au partenariat Fnac Darty. Ce Google Shop, et ben dedans, il y a une cuisine. Ah, j'en bouffe un coin là.
Bah ouais. Mais c'est marrant, en disant je veux parler cuisine, je me doutais que t'allais réussir à trouver une transition, Nico. C'est la magie de l'animateur de podcast que tu es. Je savais que tu allais réussir à retomber sur tes pattes.
Ouais, ben, on en reparle un peu plus tard.
Allez, vas-y. Je te laisse raconter.
Je la finis rapidement. Allez, c'est une news qui va passer vite. On va pas passer 2 heures dessus, mais simplement pour dire qu'à Saint-Lazare, donc la Fnac a enfin mis en place un espace dédié aux produits Google. Donc pour l'instant, c'est des Google Home, c'est des Google Chromecast, c'est des qu'est-ce qu'il y a d'autre. C'est déjà pas mal, des Philips Hue qui sont liés un petit peu à l'univers de Google et de son assistant vocal. Donc en fait, ils ont recréé tout un univers, une espèce de petit studio français de Paris où on voit la tour Eiffel, il y a des petites fenêtres connectées, machin. Et en fait, ils vous expliquent, il y a plein de petites pancartes qui vous expliquent comment interagir avec l'assistant vocal de Google. Donc pour l'instant, pas de Chromebook, pour l'instant, pas de smartphone Pixel, mais ça va pas tarder. Courant septembre-octobre, dans ce qu'on a entendu en tout cas. Et ce petit store qui marque un lancement réussi, parce que ça, c'est vraiment très très joli, et félicitations à l'équipe qui l'a mis en place. Et ben on a un petit canapé, on a une télé, on a un frigo, on a un évier, et on peut dire à Google, bon, ok, il ne faut pas que je dise fort, ok Google, allume la télé, tu vois, merde, et voilà, il allume la télé. Et il allume la télé. Bon, moi, j'ai la même chose chez moi dans mon bureau, donc du coup, j'aurais pas dû le dire. Mais il fait la même chose. Enfin, OK, Google éteint les lumières. OK, Google éteint le podcast. Non, c'est bon, c'est reparti.
Allô. C'est reparti. En fait, t'as dit éteint le podcast et on t'a perdu pendant une demi-seconde à ce moment-là. Mais c'est bon, t'es de retour.
Ouais. C'est bon. Tu vois, donc ils ont fait tout un écosystème, tout un environnement en Google qui est vraiment très très sympa et vraiment très joli, parquet au sol, papier peint, peinture, enfin tout dans l'air du temps, un beau frigo rouge avec Google qui va te commander ton lait quand t'en as plus. Bref, c'est vraiment sympa. Je n'y suis pas allé. Donc si vous êtes sur Paris, si vous allez à Saint-Lazare, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, prendre des photos et nous faire un retour sur le ressenti que vous avez de cet univers. Tu voudrais, enfin, j'imagine que tu as déjà vu quelque chose de comme ça près de chez toi.
Ouais, mais c'est vrai que là, ça a l'air, comme tu dis, un peu adapté à la France. Et puis, bon, c'est juste consacré au Google Home. C'est vrai que quand on avait parlé à l'époque, j'avais dit, donc nous ici, chez Best Buy, qui est l'équivalent de boulanger, en fait, aux États-Unis, en général, on a un corner, comme on dit en bon français, un corner Google, où tu as donc, tous les Chromebooks disponibles, et puis Google Home, et. Donc ouais, mais c'est pas aussi chouette et c'est pas aussi mis en valeur que sur les images que tu montres là. Donc allez jeter un coup d'œil à l'article.
Oui, allez-y, regardez, puis allez jeter un coup d'œil à Saint-Lazare, et puis dans les prochaines FNAC qui vont sûrement suivre le pas si ça marche pas. Ouais. Si ça marche bien, pardon. Continuons un petit peu dans l'univers de la pub de Google, finalement, parce que c'est un Google Shop, c'est quoi? C'est de la publicité, c'est de la mise en avant du produit. Et Google nous a sorti une belle pub et tu voulais nous en parler. Je n'ai pas bien compris pourquoi, Thomas.
Ouais, alors c'est une pub qui troll un peu tous les systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels qui peuvent exister entre macOS et Windows. Donc la pub est. Alors c'est ici comme chez vous d'ailleurs en France, c'est bientôt la rentrée. Donc c'est en général un moment qui est assez important pour les gens qui vendent des ordinateurs, des Chromebooks en particulier. En gros, avec Noël, c'est vraiment le moment où les gens s'équipent le plus. Et donc, c'est aussi le moment pour Google pour sortir une pub. Donc on vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Allez jeter un coup d'œil. Donc il y a la pub sur YouTube. C'est pas forcément la pub la plus complaisante avec la concurrence, on va dire, pour le dire un petit peu correctement. Il troll beaucoup, en fait.
Ah non, mais pas. Non, moi, je trouve ça non. Pas du tout. Je comprends pas ce que tu veux dire. Clairement, les autres, c'est exactement ce que Google a dit. Bon,
c'est honnête et équilibré, c'est ça que tu es en train de dire.
Totalement. C'est hyper objectif. C'est vrai que les autres, il faut faire des mises à jour longues et fastidieuses. Il faut attendre que son ordinateur redémarre après l'installation de cette petite mise à jour. Et on attend qu'il redémarre au bout de quoi, 2 heures? Non, j'exagère peut-être. Ça dépend de la puissance de l'ordinateur aussi. C'est vrai qu'on peut avoir des virus. C'est vrai qu'on a des pop-up qui jaillissent à chaque fois que tu cliques sur un truc qui disait êtes-vous sûr de vouloir être sûr de être sûr de vouloir effacer? Ou des trucs comme ça, tu vois, c'est bon, c'est objectif. Et puis, il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, Microsoft avait taclé Google et ses Chromebooks. Je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient fait une pub où on voyait un pawn shop très célèbre, une émission de pawn shop, de prêteur sur gage, comment on appelle ça, tu t'amènes un objet, tu files de la thune, et si tu ramènes pas la thune dans un temps imparti, garde l'objet.
Ah ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, prêteur à gage. Ouais. Non, c'est pas ça.
Ouais, c'est ça. Donc c'est une émission très connue qui s'appelle Pawn Shop, en fait, hein, tout simplement, tout droit de chez toi. En fait, ils avaient, il y a une personne qui, une dame, un gars de Microsoft lui donnait un Chromebook, il lui disait allez vendre ça au pawn shop là-bas, voyez combien pouvait en tirer. Et puis tu vois le mec du pawn shop qui se fend la poire en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, on peut rien enregistrer, on peut pas l'utiliser hors ligne, tout ça quoi. Donc du coup ils se sont bien payés une bonne tranche il y a 5 ans Microsoft, et ben Google maintenant qu'ils sont bien établis avec leur Chromebook et puis Chrome OS, ils leur redonnent la monnaie de leur pièce.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Écoute, faut que je essaie de retrouver cette vidéo. Ça m'avait échappé, en fait.
J'avais fait un article dessus, si tu veux. J'ai dû mettre le lien dans la vidéo. C'était plutôt amusant. D'accord. Enfin, moi, ça m'a fait
rire. Ça t'a fait rire.
Okay. Là, je vais parler au dev que tu es, parce que moi, je suis vachement moins bien placé que toi, j'imagine, pour parler de ça. Parce que les Chromebooks, enfin Chrome OS évolue, il évolue énormément. On va le voir tout au long du podcast. Là, il y a pas mal de nouveautés sur Chrome OS à proprement parler. Chrome OS, c'est un système d'exploitation, donc ça tout le monde le sait, qui lance Chrome OS. Bon, un Chromebook, ça lance Chrome OS. Ouais, jusque-là, tout le monde est d'accord. Mm-hmm. Mais depuis peu, on dit qu'il lance, enfin depuis peu, depuis quelques temps, il lance Android. Bon, ça, toi aussi, tu es au courant, moi, tout le monde l'est. On a le Play Store maintenant. Et il y a quoi ? Il y a un mois, ils se sont dit, ben tiens, on va lancer Linux dessus. Alors Linux, bon, c'est plus nébuleux pour beaucoup de monde, hein. Système d'exploitation libre, enfin bref, c'est un univers bien particulier. Et puis, bah, ils se sont dit, maintenant qu'on a lancé Linux, on va lancer la possibilité d'installer facilement des paquets Linux Debian. Bah, là, je te laisse la main parce que Linux, je connais, des paquets, bon, bah, j'en ai quand je vais à Carrefour, mais Debian, c'est qui ?
Donc, ouais, Debian ou Debian, d'ailleurs, je ne sais pas si on dit Debian en français, en anglais, on dit Debian, mais c'est une des distributions Linux les plus communes. Alors, il faut que j'explique peut-être ce que c'est qu'une distribution Linux. En gros, Linux, c'est un système d'exploitation libre et ouvert, mais ça n'empêche pas les gens qui développent des systèmes d'exploitation de s'en emparer et de rajouter, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, des services complémentaires ou en gros de rajouter des choses par-dessus qui sont... alors, certaines sont libres, mais certaines ne sont pas libres. Et donc, tu as des distributions, par exemple, comme Red Hat, qui est la distribution Linux une des distributions Linux entreprises les plus connues, qui est donc basé sur Linux, mais qui vient avec, enfin qui est vendu avec tout un tas de services complémentaires, avec des fois du logiciel qui est libre, mais aussi du logiciel qui n'est pas libre, voire même qui est payant. Et donc Debian, c'est, je sais pas, c'est si on fait le top 3 des distributions Linux les plus populaires, Debian est dans le top 3, si ce n'est même peut-être tout en haut du palmarès. D'ailleurs, pour ceux qui utilisent un Raspberry Pi, en général, Raspberry Pi, la distribution Linux de choix, c'est ce qu'on appelle Raspbian, qui est une dérivée de Debian. Donc voilà, donc c'est une longue intro pour parler de la distribution Linux Debian, mais l'avantage aussi des distributions Linux, c'est qu'en général, il y a, comme tu dis, ce qu'on appelle des paquets, avec un système de distribution de paquets qui vient avec. La façon dont on pourrait voir ça, c'est, alors pour ceux qui utilisent... on va comparer avec un système d'exploitation qui est un petit peu comparable pour ceux qui utilisent Windows ou qui utilisaient Windows à l'époque. Un paquet, c'est, ça peut être à la fois une application, ça peut être aussi une librairie, ça peut même être un pilote, un peu comme les DLL à l'époque de Windows. Donc voilà, donc un paquet, ça peut être, c'est un peu une sorte d'entité un peu atomique qui va vous permettre de, soit du une application en tant que telle, soit en gros quelque chose qui va vous permettre d'installer d'autres applications. En fait. Et donc maintenant, on peut installer des paquets Debian directement sur Chrome OS.
On le fait.
Comment tu dis ? Allô Nico ?
M'entends ? Oui, comment on le fait ?
Ah, comment on le fait ? Ouais, si, ça y est, je t'entends. Allô, tu m'entends ?
Ok, c'est moi qui bug. Vas-y, je te laisse expliquer comment on installe un paquet Debian sur Chrome OS.
C'est une très bonne question. Et figure-toi qu'en fait, j'étais en vacances jusqu'à il y a 2 semaines et que, et que j'ai lu l'article. Mais pour être très honnête, je viens juste de booter mon Chrome. Donc en fait, j'avais justement après la longue intro, j'avais justement l'intention de te dire. Et maintenant, Nico va nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour installer un paquet Debian.
Alors, c'est super compliqué. Alors, déjà, il faut avoir un paquet Debian. Donc, c'est pas très compliqué. Si je peux le comparer, comme tu disais, avec Windows, en fait, on pourrait, c'est similaire à peu près au fichier en .exe. Je sais pas si, tu vois, les exécutables qu'on a, on lance et puis ça installe un truc, en fait. Mm-hmm. Ou au .bat, pour les plus anciens, peut-être. En fait, on récupère un fichier .deb, comme Debian. Debian. Mm-hmm. Et ce fichier-là, c'est un fichier compressé. Hein. Il y a plein de choses dedans. On ne sait pas trop ce que c'est. Nous, enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Techniquement, je sais que je veux, par exemple, le fichier de Firefox. Je vais prendre le fichier firefox.debian. Il y a plein de trucs dedans. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Ce n'est pas mon problème. Et bien, une fois qu'il est sur ton Chrome, sur le SSD de ton Chromebook, tu glisses simplement dans la partie Linux. Tu double-cliques dessus. Voulez-vous installer ? Oui, non ? Oui, et voilà.
Donc en fait, il faut que ça vive, enfin il faut que tu enregistres ton paquet dans la partie de disque Linux en fait.
C'est C'est ça, c'est juste ça. Tu le déplaces, tu fais un déplacé copier, un copier déplacé ou un glisser déposé, voilà.
Ouais.
Un glisser déposé dans la partie Linux et ensuite tu double cliques sur le fichier et puis il te demande si tu veux l'installer ou non et puis c'est tout, t'as rien d'autre à faire en fait. C'est hyper simple, c'est n'importe qui sait le faire.
D'accord. Ok.
Thomas, maintenant.
Bah maintenant je sais, ouais, voilà. Mais je t'avoue que tu m'as pris un peu de cours là. T'as écrit un article dessus, donc je pense que c'est de nous deux, c'est toi la personne la plus au fait. Et c'est un truc que t'as testé toi-même, du coup?
Ouais, j'ai testé, ouais, ça marche super bien. Hein.
D'accord.
J'ai testé sur plusieurs applications. Par exemple, j'ai installé GIMP grâce à ça. J'ai installé Audacity. Tiens, c'est juste pour la petite histoire, pour faire le montage audio du podcast, par exemple. Ça marche super bien. Et justement, je vais rebondir dessus pour proposer une autre news. On l'a abordé rapidement. J'en ai fait un article parce qu'en fait, je m'étais dit, quand les applications Linux, quand Linux est apparu sur Chromebook, sur Chrome OS, je me suis dit, mais en fait, où est-ce que je trouve les applications quand je suis sur Chrome OS, je vais sur le Chrome Web Store, je trouve toutes les applications. Je vais te poser la question, quand tu es sur Android, tu vas sur quoi pour trouver toutes les applications?
Sur Android, c'est un piège. Sur Google Play?
En fait. Et sur Linux, comment tu fais quand tu es sur un Chromebook? En fait, j'avais pas de réponse à ça. À part savoir ce que tu dois télécharger, en fait, je me retrouvais comme il y a 20 ans à devoir aller en grande distribution. Alors, la grande distribution, c'est Internet, à chercher un logiciel bien particulier dans la rubrique. Ben, je veux de l'audio, donc ben, je vais dans le magasin, je cherche audio. Il y a le vendeur qui me dit, ben, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien, machin. Tu prends, tu l'installes, non, c'est pas bien, j'en veux un autre. Enfin, c'est hyper compliqué, ça me paraissait trop compliqué. Mmh. Et il y a longtemps que j'ai pas utilisé Linux. Moi, j'étais fan de Linux il y a quelques temps. J'ai un petit peu délaissé parce que j'ai plus le temps de m'amuser avec, mais bon, peu importe. Et je me souvenais d'un truc qui s'appelait Gnome Software. T'en as entendu parler, j'imagine, Thomas?
Ouais, bien sûr.
C'est un magasin d'applications au même titre que l'est le Chrome Web Store, l'App Store, le Play Store, le Windows Store, le Drug Store, non? Bref, c'est un peu la même chose. Et je me suis dit, tiens, je vais l'installer dessus, je vais essayer. Donc, je suis allé récupérer le Debian de Gnome Software, je l'ai installé. Et puis là, au miracle of the technology, je me retrouve avec un grand magasin avec des milliers de logiciels Linux disponibles pour nos Chromebooks. Et là, j'ai plus qu'à choisir directement. J'ai mes étagères qui sont devant moi. J'ai tout le listing, j'ai les notes, j'ai les commentaires des utilisateurs, comme peuvent l'avoir les autres stores de tous les systèmes d'exploitation existants. Et là, ensuite, tu fais installer, et pouf, magie, ça s'installe. T'es même pas obligé d'aller dans la ligne de commande pour taper install sudo apt-get install machin. T'as pas obligé ça.
Ouais, tu double-cliques et ça marche. C'est vrai que c'est presque plus simple que, comme tu dis, d'utiliser Linux. À la base, Linux, c'est vrai que bah, la plupart des choses se font en ligne de commande. A priori, tu pouvais quand même double-cliquer sur un point deb et l'installer. Mais c'est vrai que beaucoup de choses se font en ligne de commande. Et là, bah, forcément, c'est l'approche Chrome OS. Donc, c'est plus simple, c'est plus ergonomique. Et il n'y a plus besoin de faire tout ça.
Ouais, et pareil, dans la continuité, comme les autres fois, en fait, tu peux même désinstaller l'application, le logiciel, puisque c'est un logiciel que tu as installé précédemment, aussi simplement. Pas besoin d'aller clic droit sur l'icône supprimer. Là, tu vas sur ton Gnome Software, tu cliques supprimer, puis c'est fait. Et tu as tout le listing de ce que tu as installé. Ce qui est compliqué aujourd'hui sur les Chromebooks, de voir, tu sais, c'est difficile de voir quelle est l'application Android, quelle est l'application Chrome, est-ce que c'est juste un raccourci vers un navigateur, est-ce que c'est une application Linux, c'est super compliqué, je trouve, c'est pas encore bien, il pourrait y avoir quelque chose qui mette en valeur, en évidence quel système est utilisé. Bon, ceci dit, j'imagine que les développeurs ne veulent pas forcément complexifier les choses et se dire, bah, c'est sur ton Chromebook, tu cliques, ça marche, mais j'avais des difficultés à trouver, et pour désinstaller une application Linux, bah, à part les lignes de commande, j'avais pas trouvé grand chose, et grâce à Gnome Software, tu retournes dessus, tu fais supprimer, puis c'est réglé.
Ouais, il faut savoir que Gnome, en fait, à la base, donc Gnome Software, c'est le, comme tu dis, c'est le magasin d'applications qui est packagé avec Gnome. Et Gnome est une interface graphique disponible pour Linux, en fait. Et il y en a pas mal d'autres, mais Gnome est une des plus populaires. À une certaine époque, il y avait KDE aussi. Je ne sais pas si c'est ce qu'il en est. Moi, c'est pareil, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé.
J'essaierai plusieurs. Donc, n'hésitez pas si ceux qui nous écoutent ont accès à Linux sur leur Chromebook, qui veulent se tenter à l'expérience d'installer des logiciels Linux, nous faire un retour dessus, savoir si ça fonctionne, si ça fonctionne bien ou pas bien, si on a d'autres magasins d'applications qui sont disponibles et comment les installer. Ben, moi, je suis preneur, hein, parce que je teste tout, je m'amuse avec tout. Et c'est pour ça que je n'ai plus de temps et que je fais appel à vous pour écrire des articles pour Mike Chromebook. N'oubliez pas le contact@mikechromebook.fr. C'était la seconde pub.
Parfait. On enchaîne et on parle de
Titan. Tu sais la planète qu'on a trouvée, c'est un satellite de Saturne ou oh, Saturne, ouais, un truc comme ça. Non,
je crois que c'est ça, ouais. mais c'est pas, on parle pas d'astronomie, c'est pas encore.
C'est pas l'astronomie, ok.
C'est pas encore.
On est
pas...
cuisine,
ouais, c'est logique, ça. Enfin, c'est... La prochaine fois, on parle de cuisine, la fois d'après, on parlera peut-être d'astronomie, mais là, c'est pas ça dont on parle. On parle de Titan, qui est une clé de double facteur d'authentification. Tu nous racontes un petit peu de quoi il en est, de quoi il en retourne?
Tu l'utilises peut-être pas parce que tu l'as perdu dans ton déménagement.
Les gens normaux
ne la perdent pas. Les gens normaux ne perdent pas ça parce que la clé d'authentification, c'est juste quelque chose qui est assez génial. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, aujourd'hui, on peut protéger ses accès Internet à votre banque, à votre boîte mail, à n'importe quel serveur, bref, avec un mot de passe. Vous savez, le truc ringard là, des années 30, là, quand Internet est sorti, où on tapait un mot de passe et on s'est dit, ouais, super sécurisé, tout ça, mais en fait non, c'est pas sécurisé un mot de passe. Alors ça l'est dans une certaine mesure, mais on est tous un peu, passez-moi l'expression, débile, mais on met souvent le même mot de passe pour plein de choses. C'est pas bien. D'ailleurs, j'ai fait un article pour vous expliquer qu'il faut pas le faire, qu'il y a d'autres solutions plus intéressantes. Je vous mettrai le lien dans les descriptifs de l'émission. Il y a un autre système qui permet de sécuriser un deuxième facteur de sécurisation. Donc, tu tapes d'abord ton mot de passe. Donc, jusqu'ici, ça, tout le monde sait le faire. Et ensuite, on va te demander d'insérer la clé USB dans le port USB de l'ordinateur avec lequel tu essayes d'accéder au service que tu veux accéder, en l'occurrence. Et c'est ça qui va prouver physiquement que c'est bien toi. Donc là, pour hacker ta clé à double facteur, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut venir dans ta poche, la prendre, la brancher, connaître ton mot de passe. Donc là, ça devient plus complexe pour pirater le compte de quelqu'un. Et d'ailleurs, Google a testé ça depuis plusieurs années. Alors, je ne l'ai plus en tête, je suis désolé, mais ils ont testé ça avec leurs employés depuis, je crois que c'est 2 ou 3 ans, un truc comme ça, même 4 ans.
Ouais.
Ils ont fourni une clé à une bonne partie de leurs employés et ils disent avoir sécurisé, je crois, c'est 85 000 tentatives de phishing, je crois, grâce à cette clé ou 850 000. Enfin, c'est un chiffre assez énorme dans tous les cas. Et du coup, ils se sont dit, notre clé est efficace, nous allons la lancer et nous allons lancer pas une, pas deux, ah, pas six. Deux clés Titan, deux clés à double facteur. Une clé USB classique que tu vas pouvoir brancher dans ton port USB de n'importe quelle machine avec un port USB, mais également une clé Bluetooth parce que sur les smartphones, on ne peut pas forcément brancher une clé USB. Donc, il suffira de lier en Bluetooth. Ça doit être un Bluetooth rapide, un truc comme ça qui se connecte directement sans forcément avoir de clé d'activation ou de choses comme ça. Ça fait office de double facteur d'authentification et ça permet de protéger vos données au maximum. Moi j'en ai eu une, je ne l'ai pas utilisée parce que c'était un peu compliqué sur mon Chromebook à l'époque. Je vais aller m'en acheter une nouvelle, donc j'essaierai de vous faire un retour une fois que je l'aurai pour savoir si ça marche bien, mais bon, nul doute que ça fonctionne puisque Google va le commercialiser a priori entre 20 et 25 dollars, donc j'imagine à peu près pareil en francs, oh putain, je viens de prendre 30 ans là. en France suisse, France suisse, je suis à côté de la frontière suisse, donc en France suisse ou en euros. J'ai pas fini ma phrase, ne coupe pas comme ça, Thomas. et un peu plus cher quand tu achètes les deux, la clé Bluetooth et la clé USB. Enfin voilà, donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont utilisé. Pareil, je serais très curieux des retours que vous pouvez avoir et comment il fonctionne sur un Chromebook. Enfin, toi, tu l'as déjà utilisé avant de la perdre, la tienne, ou pas du tout, Thomas?
Moi, du coup, je l'avais configuré sur Mac. C'est un peu... c'est pas forcément le truc le plus simple à mettre en place, j'ai envie de dire. Ça pose quand même pas mal de questions. Et puis, il faut être sûr de son coup, c'est-à-dire... quand tu la mets en place et que tu l'utilises à fond, faut pas la perdre. Donc voilà. Mais après, c'est. Ouais. Donc comme je disais, en termes de clés, c'est un peu compliqué à mettre en place. Et puis il faut faire attention à pas la perdre, en fait. mais c'est vrai que c'est juste un système d'authentification de plus en plus du SMS, en plus du mot de passe, et faut pas avoir, ou en plus des codes, je sais plus comment on appelle ça, les codes, quand on utilise par exemple Google Authenticator, ou
Je sais pas.
les codes cyclistes,
Juste.
je sais plus comment on appelle ça, mais les codes en fait, en gros, les codes à 6 chiffres qu'on vous demande d'entrer pour vous authentifier. Donc voilà, donc la YubiKey ou la clé Titan, du coup, c'est juste un système de plus. Et comme tu dis, bah, c'est quand même toujours mieux d'avoir deux facteurs plutôt que d'avoir juste un mot de passe à entrer, en fait.
D'ailleurs, dans l'article que j'ai mis, juste pour rigoler un petit peu, il y a Kaspersky qui a fait sur sa page, je crois, ouais, sur sa page web, la possibilité de tester son mot de passe, savoir combien de temps, en fait, en combien de temps ton mot de passe va être craqué. Et c'est assez amusant parce qu'il y a des petites blagues tout du long. Il sera craqué, tu auras le temps de faire 3 fois le tour de la Terre, ou il sera craqué quand tu auras mangé ton hamburger, enfin, un truc comme ça, quoi. Et c'est assez amusant. Je l'ai mis dans le lien je l'ai mis dans l'article de la clé Titan. Amusez-vous à tester vos mots de passe. Ils ne sont pas conservés par Kaspersky, heureusement, en même temps. Et
Ouais, alors ça c'est ce qu'ils
à ça.
disent. Moi je t'avouerais que je me méfierais quand même. Comment tu dis?
Dans un autre, un mot de passe qui se rapproche de ce que tu mets
Voilà,
d'habitude, mais qui est pas le
ouais,
tien, en fait.
à la rigueur,
Mais
ouais.
c'est assez amusant. Et ce qui est amusant, c'est que tu sais, on avait une tendance à dire, ah, un mot de passe, il faut qu'il y ait des caractères majuscules, minuscules, des symboles, des lettres, des chiffres, tout ça, tout ça. Et ben en fait, avec le test, tu t'aperçois qu'il faut une bonne phrase, c'est mieux qu'un mot de passe. Une phrase longue, c'est 10 fois mieux qu'un mot de passe très compliqué. Déjà, pour le retenir, ce sera plus simple, une phrase. Et puis en plus, a priori, c'est plus dur à craquer une phrase qu'un mot de passe de 12 caractères.
Ouais. Et d'ailleurs, One Password, pour les gens qui utilisent One Password, et peut-être que les autres gestionnaires de mots de passe le font, en général, ils vous aident à générer des mots de passe plus ou moins sécures, enfin, ou en tout cas avec le niveau de sécurité que vous voulez. Donc, moi, j'utilise ça en fait. Je génère tous mes mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe, comme ça, je m'embête pas à y réfléchir et à essayer de trouver quelque chose
Si
qui
je te vole
sécurise.
le seul mot de passe que tu connais, finalement, je peux te voler tous les autres.
Alors le problème des gestionnaires de mots de passe, c'est ça, c'est que oui, en effet, c'est bah il y a oui, il y a un mot de passe master qui vous permet d'accéder à tous vos autres mots de passe. Donc faut pas se rater, faut avoir un mot de passe
Le tien
master qui est
est
très
super
très long.
sécurisé. Le tien est super sécurisé. T'as mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
J'ai mis password en fait, c'est mot de passe en anglais, comme ça les gens
Ah ouais. Comme ça, ils savent pas.
ils...
Puis c'est bien de pas le dire dans un podcast écouté par des millions de personnes.
Voilà, des centaines de millions, tu veux dire.
Centaines de millions, ouais. Bah Netflix se rapprochait de nous, hein, ils veulent nous racheter peut-être. Hein.
Donc voilà, donc ça c'était la clé Titan. Donc on a quelques petites nouveautés aussi sur le plan de Chrome OS. Donc là c'était les news générales, on va dire, mais il y a des petites nouveautés en termes d'amélioration de la gestion des onglets. Tu nous expliques un petit peu ce qu'il en est?
Alors ça, c'est pour comment dire, les passionnés d'onglets ouverts. Tu sais, ceux qui ouvrent 50 000 fois des fenêtres. Tu as 30 onglets dans ton navigateur web, ça t'arrive. Enfin, moi, ça m'arrive tous les
Non,
jours.
je vois pas de quoi
Là,
tu veux parler.
non. Je suis en train d'enregistrer le podcast, donc juste pour la petite histoire, là, j'ai un Chromebook en face de moi avec le logiciel qui nous permet d'enregistrer, enfin d'échanger entre nous. Sur celui-ci, j'ai déjà 14 onglets.
Ouais.
Donc c'est vachement malin de ma part, hein. Bref. Et puis j'en ai un autre sur lequel je lis la préparation du podcast qu'on a fait. Donc c'est un autre Chromebook. Oui, on pourrait dire dans mes 14 onglets, j'aurais pu avoir un onglet de ça. Mais non, non, j'ai décidé d'ouvrir un autre Chromebook. Et je me suis dit, vu que je n'ai que 14 onglets ouverts sur mon premier Chromebook, je vais en ouvrir 21 sur l'autre.
Voilà.
Moi, je me suis dit, tiens, si on peut ne pas en avoir beaucoup, c'est bien. Et du coup, dans mes 21, eh ben, je vois que j'ai au moins une, deux, trois fois My Chromebook d'ouvert.
D'accord.
L'intérêt, enfin, c'est pour les chiffres. Je triche les chiffres, j'ouvre moi-même les pages pour dire qu'il y a du monde qui passe sur le site. Et ben, en fait, la nouvelle solution de gestion des onglets, c'est ça. C'est pour t'éviter d'ouvrir 17 fois le même onglet dans ton navigateur web. Google, en fait, quand tu vas commencer à taper My Chrome, hop, il va dire, oh, t'as un onglet qui s'appelle My Chromebook qui est déjà ouvert avec un petit bouton à droite de mychromebook.fr. Il va dire, est-ce que tu veux y aller? Tu fais se rendre à l'onglet, puis pouf, il va directement t'envoyer sur l'onglet déjà ouvert. C'est super pratique pour les gars comme moi qui sont assez débiles et qui ouvrent 17 fois le même onglet. C'est vraiment génial. Ça t'économise en RAM, hein, enfin en mémoire de ton Chromebook, et puis ça te simplifie la vision de ton navigateur, parce qu'avoir trop d'onglets, à un moment, tu sais plus ce que tu as d'ouvert. D'ailleurs, c'est pour ça que tu en rouvres encore d'autres. Hein. Et ben avec ça, on simplifie un petit peu notre utilisation du navigateur. Et moi, je l'utilise depuis que c'est en place, et c'est pas mal. Alors, je ne l'utilise pas tous les jours, parce que je ne suis pas tous les jours débile. Il n'y a que les jours impairs où je suis débile. Et on est quand aujourd'hui? On est le 15. Ah merde, on est le 15, je suis débile aujourd'hui.
Mais voilà. Non, non, je pense que c'est en effet quelque chose. Tu n'es pas du tout débile, Nico, permets-moi de te le dire. Je pense que c'est quelque chose qui nous arrive tous, tu vois. Moi, j'ai pas appris le temps de compter mes onglets, mais j'ai clairement une fenêtre ouverte de Chrome avec plein d'onglets ouverts. Et je pense qu'on a tendance à. Bah, de toute façon, s'ils proposent cette fonctionnalité, a priori, c'est qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes que. Bah, c'était quelque chose qui posait problème, donc c'est pas complètement illogique, et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Ça c'est sorti, tu l'as sur le canal Dev ou c'est déjà sur Canary
pour l'instant, avec une fonctionnalité expérimentale activée, donc c'est pas encore sur ça va arriver, hein, parce que ça fonctionne vraiment très bien, et puis ils l'ont déjà amélioré plusieurs fois, hein. Ils ont changé ils l'ont intégré plus proprement, je dirais, au navigateur Chrome. Alors, ce n'est pas exclusif à Chrome OS, c'est ça qui est intéressant, hein, ça marche sur Chrome, peu importe le système d'exploitation, mais dans la version dev, stable normalement, pas stable, c'est quoi l'intermédiaire? La bêta, normalement, c'est la semaine prochaine. Et donc, l'autre devrait arriver sur le canal stable d'ici 2 à 3 semaines maximum. Mais c'est vraiment sympa, ça ne coûte rien de l'activer si vous pensez en avoir besoin un jour, et vous n'aurez peut-être jamais besoin, vous ne le verrez peut-être jamais, mais le jour où, eh ben c'est là, et ça c'est étonnant, ça marche bien. Moi je conseille vraiment de l'activer, cette option est vraiment sympathique.
D'accord, bon, c'est bon à savoir. Sans transition, Fortnite, si je te dis Fortnite, est-ce que ça te parle?
Ah là là, ah ouais, ça me parle. En fait, en ce moment, je suis. Faudrait voir, enfin, ça faudrait parler à mes collègues. Mes collègues me détestent en ce moment parce que dans ma journée, je dois faire 1 à 2 heures de PUBG. Donc le.
Allez, donc ça bosse, hein, chez Nico. Hein.
C'est un truc de dingue. Non, mais je suis multitâche. Mon côté féminin, j'arrive à faire ça et à parler à quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, vu que je suis nul à PUBG, que je meurs tout de suite ou dans 10 minutes, ça ne change pas grand-chose à mon classement. Donc du coup, c'est plus pour vider l'esprit. Donc je joue à PUBG, Player Underground Battle Game, c'est ça, un truc comme ça. PUBG pour les intimes. Donc c'est
Battleground, je crois.
Battleground, ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. En fait, c'est un jeu multijoueur où tu sautes en parachute sur une île, et puis on saute à 100, et puis bah, le but du jeu, bah, c'est d'être le dernier, un seul restera en vie, puis de gagner, évidemment. Et pour ça, bah, tu tombes sur une île où, évidemment, dans toutes les maisons, il y a des armes. Je croirais aux États-Unis, hein, c'est pas très compliqué. Clairement, c'est pas la France, hein. Mais on arrive et il y a des armes partout. Puis du jeu, bah, tu tues tout le monde et puis tu as des classements, bref. Et puis donc, il y a un concurrent qui est Fortnite, qui est plus, comment dire, plus sympathique en termes de design. Moi, j'aime bien le design de Fortnite. Je suis très très mauvais à Fortnite, hein, aussi mauvais qu'à PUBG, mais je suis un peu meilleur à PUBG d'ailleurs. Ouais, enfin bref, ça se voit. Hein.
Bah, c'est les 2 heures par jour, hein, les 2 heures par jour de PUBG, forcément, ça t'aide à être un peu mieux. Un peu moins mauvais.
Et à Fortnite, je suis encore plus mauvais parce que ils viennent de le sortir. Donc, ils l'ont sorti sur iOS il y a, je dirais, 4 mois maintenant. Donc, iOS, c'est le système d'exploitation à la pomme, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que forcément, vous êtes sur le CKB Show et pas sur l'Apple Show. Donc, ils l'ont sorti il y a 4 mois. Ça fait un tabac. C'est 40 millions d'utilisateurs en ligne. C'est un truc de malade, Fortnite.
Ouais.
C'est des milliards de dollars engendrés. C'est 126 milliards en un trimestre. Non, en un mois. Ouais. En un mois de gagner.
C'est
phénoménal. C'est un jeu, hein, clairement. C'est un jeu qui nous fait perdre du temps, qui fait perdre la vie à tous les avatars qu'on tue, évidemment. Et ça y est, il débarque progressivement sur Android. Bon, ça, c'est évident. On ne peut pas se passer d'Android quand tu veux lancer un jeu multiplayer, parce que forcément, Android, c'est 80% du marché. Ou, je ne sais pas, enfin, c'est peut-être plus 80, mais c'est un truc énorme. Et a priori, il sera porté sur Chromebook aussi. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Hein.
Ouais, voilà. Alors, en fait, je l'ai mis là rapidement parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore disponible sur Chromebook. Mais la première nouvelle, comme tu dis, c'est qu'il est disponible sur Android. Il est disponible juste sur Samsung Galaxy Note 9 au
non.
début. Ça y est, c'est plus le cas?
plus maintenant. Non, non,
Ok.
non. Moi, j'ai plus de Samsung. Je suis parti à l'ennemi. Je suis parti deux fois à l'ennemi depuis mon dernier Samsung S9.
D'accord.
Donc, j'en ai eu marre. Enfin, j'en ai eu marre très vite, hein, d'un téléphone. Je suis allé chez Xiaomi. J'en ai eu marre et je suis parti. Là, je suis sur Huawei P20 Pro.
D'accord. Et donc il est
Et
dispo,
donc,
il est déjà dispo sur Huawei depuis quand du coup? Ça fait quelques jours, non?
eh ben, ça fait 3 jours.
D'accord, ok. Donc
3 jours, il est dispo. Alors, et ce qui est notable, ce qui est hyper intéressant, c'est que donc Epic Games, la société qui développe Fortnite, a décidé de se passer du Google Play Store. C'est un
Voilà.
truc de fou.
Donc
Les mecs, ils sont fous. Ils sont fous, mais pas tant que ça, en fait. Tu sais pourquoi? T'as une idée, Thomas, de pourquoi ils ne veulent pas le Play Store?
Eh bien, oui, c'est à cause des 30% qui sont pris par le Play Store à chaque fois que tu vends une application ou que tu vends des choses par le biais de ton application en utilisant le Play Store.
C'est juste pour une question de pognon. Mais c'est bluffant, hein. Et les mecs, je ne sais pas du coup comment on va vérifier le nombre d'utilisateurs grâce à Android. Bon, ils vont sûrement eux communiquer, mais Google bah, saura pas. Enfin, je pense pas. Enfin, quoi que si, à mon avis, ils vont pouvoir le savoir. Et ce qui est amusant, c'est que Google a même communiqué dessus pour dire attention, ce n'est pas un produit protégé. Si vous ouvrez les sources inconnues, vous autorisez votre smartphone à n'importe quelle application de vérifier tout ce que vous avez sur votre produit, nous ne sommes pas responsables.
Ouais, c'était assez. Leur réaction, comme tu dis, est assez marrante. Et ça va même plus loin que ça, puisque en fait, ils ont même comment ça s'appelle? Quand tu fais une recherche et que tu cherches Fortnite sur Google Play, ils te disent, ah, vous recherchez Fortnite de Epic Games, bah on l'a pas. Il est pas
Ah ouais?
disponible ici. Ouais, je sais pas si t'as fait là, si t'as fait l'effort, si t'as fait le
Ah, je vais le
test.
tester tout de suite.
Ouais. Et donc
Ah, je fais.
donc du coup, ouais, c'est assez. C'est marrant en fait de se dire que bah, c'est un peu comment dire, c'est tellement visible, c'est tellement connu plutôt que en gros ils se doutent que les gens vont venir le chercher sur le Google Play, mais qu'ils ne le trouveront pas forcément. Donc en gros ils prennent les devants en disant c'est pas la peine de le chercher, vous le trouverez pas.
Ouais, je viens d'essayer, effectivement, hein, effectivement, ils nous disent, j'ai fait une capture d'écran, Fortnite Battle Royale, Epic Games, l'IMC, n'est pas disponible sur Google Play. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est OK. Bon, après, donc moi j'ai fait un article sur un autre de mes blogs qui dit que on peut installer des stores alternatifs sur Android, hein, avec genre Amazon et compagnie. Par contre, il faut quand même installer un fichier APK puisque c'est les fichiers extensions Android pour je sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs application je sais pas quoi bref et il faut faire attention parce qu'il faut vérifier ses sources avant de l'installer parce que clairement vous donnez l'accès à toutes vos données personnelles et ça peut être risqué par les temps qui courent. Sachez que vous accédez à votre banque en ligne, que vous donnez, certains enregistrent leur code secret de leur One Password. Enfin bref, faites attention à ça. Installer un APK, ce n'est pas forcément innocent. Vérifiez d'abord la source. Pour Epic Games, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur epicgames.com et puis là, vous avez Fortnite et là, il vous demande de vous préinscrire. Donc, c'est une bêta, hein. Et là, ce matin, j'ai reçu une mise à jour qui est assez bluffante sur mon smartphone. Parce que je me disais, en fait, vu que c'est un APK, comment il va se mettre à jour quand ils vont faire des mises à jour? Tu vois? Parce que sur Google Play, il demande en fait les mises à jour qui étaient proposées. Eh ben, en fait, ils ont créé tant pis, on est parti. Ils ont créé une application interne à Fortnite qui va vérifier les mises à jour et qui te les propose.
C'est pas complètement ouais, c'est ça. En gros, ils sont en train de recréer toutes les infrastructures toute l'infrastructure qu'on a enfin, à leur niveau, on va dire, quand on a Google Play. C'est pas complètement surprenant, hein. C'est assez logique finalement qu'ils fassent ça. Enfin, c'est quand même une grosse boîte qui a beaucoup d'audience, enfin qui a une audience assez conséquente. Donc c'est pas surprenant, mais c'est vrai que bah oui, ils ont bien réfléchi le truc et puis ils sont pas contentés simplement de mettre le jeu à disposition sur un serveur. En gros, ils s'assurent que ton serveur soit bien à jour. J'imagine qu'il doit y avoir un minimum de sécurité aussi puisqu'il y a des achats dans l'application, donc il faut que ces choses-là soient aussi sécurisées. Donc voilà. Donc c'est intéressant. On va voir s'il y a d'autres, comment dire, créateurs de jeux vidéo vont suivre cette tendance ou alors s'ils vont être les seuls quoi. Affaire à suivre. Et on vous met le lien d'APK Mirror. Donc Si vous voulez faire l'essai sur votre Chromebook, j'ai pas testé. Au passage, je suis en train de mettre à jour mon Chromebook et il fait des trucs un peu bizarres. Donc, mon Pixelbook, il y a des boutons
Il coupe le podcast par hasard?
Alors, il y a ça. Mais je sais pas. Bref. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, si j'arrive à régler mes problèmes, je l'installerai et puis je testerai. Moi, j'ai joué pas mal sur Switch, sur Nintendo Switch. D'ailleurs, à une époque, apparemment, on ne pouvait pas porter son compte de la Switch vers d'autres consoles. Donc, je ne sais pas si cette affaire-là a été réglée. Je sais que ça avait.
Propose, ouais. Là, et quand tu installes Fortnite sur Android, il te demande si tu étais un joueur sur une autre plateforme.
D'accord. Mais est-ce que la Switch marche? Parce que je sais que tu pouvais le faire de la PlayStation vers la Xbox et de la Xbox vers la PlayStation. Mais la Switch était assez. Pas
Je sais
forcément
pas du tout.
très très sympa de ce point de vue-là, pas forcément comment est-ce qu'on dit jouait pas forcément collectif avec les autres plateformes, donc je sais pas trop. Et les gens avaient pas trop aimé ça, donc
Ouais.
on va voir.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils essayent de se passer de Google et peut-être par la suite des autres pour maîtriser tout, parce que j'imagine que Sony ne veut pas donner son argent, parce que les achats in-apps que tu as fait chez Sony, ils ont touché une partie, ils aimeraient bien, enfin Nintendo voudrait pas avoir à les redonner gratuitement peut-être.
Ouais, c'est possible, ouais.
Bon, ça fait écho à une autre chose, on n'en a pas parlé, mais ça fait écho à une autre chose. Google en Europe s'est pris une amende record pour sa position domine, enfin pour avoir obligé d'installer certaines applications sur ses Android. Et du coup, avec ça, ben, je me dis que Android est quand même très ouvert pour quelqu'un qui limite l'utilisation de ses produits.
C'est vrai, ouais, c'est pas sur Apple que tu pourrais faire ça. Donc, ouais, c'est vrai. Sans transition aucune, il semblerait que. Mince, j'ai perdu la ligne. C'est vraiment le retour de vacances, hein. On sent que. En tout cas pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu la ligne dans le conducteur. Oui, c'est ça. Non, le premier. Ben ouais, on en a parlé tout à l'heure. Donc on a changé l'ordre aussi. C'est pas de ma
Bah, c'est
faute.
toi qui as suivi l'ordre, tu me parles de poutine, moi je te parle de cuisine.
Donc,
Me parles de plat, enfin, en vrai, faut savoir. Hein.
y a des petits, y a des petits changements en termes d'organisation du gestionnaire de fichiers. Nico,
Exact.
tu nous en parles rapidement?
Sur Chrome OS, on sait que maintenant, comme je vous le disais tout au début, Chrome OS, c'est plus juste Chrome OS. C'est pas juste un Chromebook avec le navigateur Chrome et puis les applications Chrome, les extensions Chrome, tout ça. On sait que maintenant, il y a Android, il y a Linux. On peut brancher une clé USB, on peut avoir du drive d'équipe, on peut avoir du drive personnel. On peut brancher son serveur Samba dessus, on peut accéder à sa box opérateur dessus, bref, on a plein de choses. Par contre, c'était l'anarchie. Tout était mélangé, rien n'était facile à accéder. Et ben Google s'est dit, tiens, bon, maintenant qu'on se structure, enfin qu'on commence à avoir plein de choses dedans, donc encore une fois, ils sont plutôt ouverts hein, pour un OS fermé, pour une société fermée, ils sont plutôt ouverts aux autres. Hein. Et ben ils se sont dit, tiens, on va structurer un peu mieux notre application fichier. Et cette fois, vous allez voir dans l'article, il y a une capture d'écran qui est assez simple, ça se passe vraiment de commentaires, c'est simple. Ils ont structuré dans téléchargement, tu as tout ce qui est Chrome OS, dans application Linux, tu as tout ce qui est application Linux, application Android, tu as tout ce qui est application Android, je ne sais pas quoi d'autre. Bref, tout est structuré très très simplement et comme ça, tu n'es pas perdu. Tu sais ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Si tu veux utiliser une application Linux avec un fichier que tu aurais téléchargé précédemment, tu as juste à glisser le fichier sur application Linux et tu y as accès directement depuis l'application. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour le dernier podcast où j'ai fait un tout petit montage pour mettre le générique. Avec Audacity, j'ai été obligé de prendre le fichier MP3, le glisser dessus et j'ai accédé directement via Audacity de Linux. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça permet vraiment une lisibilité, une utilisation beaucoup plus simple, une expérience utilisateur beaucoup plus intéressante. Et je peux vous dire que ça manquait. Et avec ça, vous allez mieux maîtriser votre Chromebook. Je pense que tu vas l'avoir sur ta mise à jour sur ton Pixelbook, Thomas, puisque il me semble que c'est arrivé sur le canal au bêta de la
D'accord.
60.
D'accord. Bah écoute, c'est bon à savoir. J'ai fait ma mise à jour et je suis sur le canal. Je suis sur Dev. Et
Ah bah alors tu vas le
d'ailleurs,
voir.
donc je vais l'avoir depuis un petit moment. D'ailleurs, ça marche maintenant. Mais tu vois, c'est marrant, il n'arrivait pas à démarrer. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le Wi-Fi et ça a marché. Alors je ne sais pas comment j'ai eu l'intuition de couper le Wi-Fi. Mais du coup, ça m'a permis de démarrer. Après, j'ai remis le wifi. Bref, les aventures, c'est ça. Hein. Quand on utilise dev, faut de temps en temps accepter que les choses se passent pas forcément toujours du premier coup. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne.
Du coup, on parle de compétition. On peut parler d'autres choses parce qu'a priori, il y a des rumeurs, tu m'en as parlé, moi je ne l'ai pas couvert la news, sur des nouveaux Chromebooks qui vont arriver, mais des Chromebooks by Google.
Ouais, exactement. Donc on avait dit que hein, le Pixelbook. D'ailleurs, juste un tout petit truc là, l'histoire du fichier, ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais dire. Il y a quelques mois, voire même quasiment un an maintenant, on avait fait une interview avec Sébastien Gabriel, qui est un des designers qui est français, donc basé à San Francisco, qui travaille sur l'application sur Chrome OS et sur le design de Chrome OS depuis de nombreuses années maintenant. Et je me rappelle à l'époque, il avait dit quelque chose qui m'avait marqué et qui confirme un petit peu ce que tu viens de dire. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'un Chromebook supporte donc tous ces types d'applications différentes. On parle de Google Play, on parle de Linux, on parle d'applications web, on va parler de Windows aussi tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tu puisses utiliser sans même avoir à te poser la question de où est-ce que cette application vit, quelle est cette application, est-ce que c'est une application Google Play, est-ce que c'est une application, enfin, est-ce que c'est une application Android ou est-ce que c'est une application Linux. Donc on n'y est pas encore complètement tout à fait, parce que comme tu dis, bah, les espaces disques sont toujours fragmentés, mais on s'en rapproche quand même un peu, et c'est vrai que bah, ça confirme un petit peu la vision qu'a Google autour de ça, quoi. On utilisera un Chromebook et quelle que soit l'application qu'on utilise, finalement, que ce soit Windows, enfin Linux en tout cas, et Android ou Web, ça se comportera de la même façon en fait.
Parfait, c'est génial pour ceux qui aujourd'hui se plaignent de Chromebook en disant oui, mais on peut rien faire avec. Demain, c'est avec les autres, on pourra rien faire par
Ouais, c'est
rapport à un
ça.
Chromebook.
On en
C'est
est
les autres
loin
qui seront
aujourd'hui. Ouais.
sur Windows, mais dans peu de temps, tu seras sur. En fait, tu auras une machine qui sera capable de tout faire. Et
Ouais,
ça,
c'est
c'est
ça.
vraiment génial, hein. On en reparlera dans pas longtemps, à mon avis, mais on en reparlera et on dira mais comment on a pu faire avant avec tous ces produits différents. Et on le voit, hein, tous les constructeurs. Comment on appelle ça,
Les fabricants.
les fab, non pas les ceux qui Windows, Microsoft et compagnie là, Microsoft, Apple,
Ah, les
Google.
GAFA, comme on dit en
Et voilà,
français.
c'est ça.
Ouais.
Ils commencent à changer leur fusil d'épaule, tu vois, avec Windows qui commence à partir sur le cloud, tu vois, qui commence à se dire, on va peut-être pas vendre trop longtemps notre OS et on va plus s'attarder sur autre chose, sur des outils, des produits supplémentaires. Et Windows a complètement changé sa vision des choses sur du cloud et peut-être que Windows sera gratuit bientôt pour essayer de rivaliser avec Chromebook et pourra peut-être, parce que quand même Windows, on peut avoir pas mal d'émulateurs ou de choses comme ça reste pas forcément très intuitif, mais c'est pas mal, ça marche. Et je pense que c'est l'avenir, enfin, non, je le pense pas, j'en le sais. Je le sais parce que je vois dans l'avenir, c'est l'avenir de l'informatique, de ne plus avoir un ordinateur à soi, très égoïstement dans son sac, c'est mon mien, c'est pas le tien. Si tu prends un produit, j'en ai parlé dans le podcast précédent, comment ça s'appelle, Grab Co. De Google.
Grab and go, ouais.
Ouais, c'est ça, tu prends un Chromebook, tu te logues et ça y est, tu as toutes tes données et peu importe ce que tu veux faire finalement, et c'est vraiment l'avenir de l'informatique. On perd plus de temps à comprendre, ah bah j'ai des virus, faut que je fasse une mise à jour, oh j'ai pété mon écran, machin, c'est trop compliqué, le service informatique, ça va être 10 ans pour les joindre. Maintenant, tu reprends un autre appareil, c'est du jetable, c'est pas très écologique, mais c'est du jetable quoi. C'est un outil, un marteau, tu le casses, t'en rachètes un, tu peux toujours clouer le même clou que tu étais en train de clouer très rapidement quoi.
Ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais. C'est ça. Ouais.
Voilà.
Voilà. Donc du coup, désolé pour la digression, mais je pense que c'était important de le rappeler. Et donc oui, en effet. Donc il y a on parle des Pixelbook, il y a des nouveaux ordinateurs qui vont arriver, qui seront faits par Google. Donc je pense que on est à une époque où Google investit dans le matériel, de la même façon qu'ils sortent les Pixels, les téléphones dont on parlera peut-être tout à l'heure rapidement si on a le temps. Tous les ans, et ben, il semblerait que Google va continuer. Le Pixelbook, c'était pas juste un coup d'essai. C'était bien la première version d'une longue série. Et donc, il y a des rumeurs de nouveaux Pixels. Il y a deux noms de code en particulier. Un qui s'appelle Atlas, après Eve, qui était le nom de code du Pixelbook. Et un autre qui s'appelle Nocturne. Alors, je sais pas exactement ce qui se passe en termes de. de décisions autour des noms de code. J'avoue que Nocturne, c'est bizarre, c'est pas un nom de la mythologie, donc je sais pas exactement ce qu'ils essayent de faire. Mais en tout cas, l'idée, donc pour l'instant, c'est juste des rumeurs, c'est les gens qui scrutent, comme on vous en parle souvent, qui scrutent le repository de Chrome OS et qui voient des choses un peu bizarres, des commentaires un peu bizarres des développeurs qui préfigurent en fait, qui préfigurent l'arrivée de nouveaux matériels. Mais là, a priori, il semblerait que ça arrive. Donc, on a probablement un ordinateur qui sera, enfin, un laptop qui sera de la même facture que le Pixelbook, et peut-être aussi un autre laptop. Donc, ça, ce serait probablement Nocturne qui sera en mode tablette détachable, un peu comme le, comment s'appelle le Galaxy, pardon, le Chrome Tab, c'est ça, de Acer? Non, comment il s'appelait ça?
Abdisk de Acer ou le HP X2.
Voilà. Donc,
Alors, c'est deux produits complètement tactiles et avec un clavier amovible en fait.
voilà, un peu comme la Surface Go de Microsoft qui a été annoncée il y a quelques semaines. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup, si ce n'est que c'est très 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 probable qu'on ait une annonce de ces nouveaux laptops, ces nouveaux Chromebooks à la fin, enfin oui, à la fin du trimestre, donc fin, ouais, soit fin septembre, soit début octobre.
Peut-être qu'ils seront annoncés pendant comment on appelle ça, leur Google I/O. Non, il y a un Google I/O cette année? Ouais,
Non,
si, après.
c'est un événement de présentation du matériel, donc c'est là où ils présentent les nouveaux Chromebooks en général, les nouveaux Pixels, pardon, en général. Donc là, a priori, ce sera probablement couplé avec ça. Et puis les nouveaux Google Home aussi. Donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer sur ce plan-là, mais il serait possible qu'il y ait des nouveaux Google Home aussi qui soient annoncés au cours de cet événement.
Une nouvelle montre également, j'ai entendu parler d'une montre en
Ouais,
Wear OS.
en effet. Ouais. Google
Ouais.
qui se remettrait à faire de la même façon qu'ils font leur propre téléphone avec les Pixel. Il y aurait peut-être une Pixel Wear OS, une montre faite par Google qui serait annoncée aussi.
Bon, de toute façon, tu vas sûrement te faufiler dedans comme tu fais tous les ans pour essayer de choper un ou deux produits en photo.
Alors en fait, non, moi j'ai jamais eu l'occasion d'assister à cet événement-là. En général, c'est plutôt un événement qui est ouvert aux journalistes en fait, pas tant aux développeurs. Donc je suis pas sûr d'y être. Par contre, comment?
Avec le sac à bécho, t'es pas journaliste.
C'est vrai. Faudrait que j'essaie de négocier. Faudrait essayer de négocier un accès. Écoute, on va y travailler. Peut-être que c'est possible. On ne sait jamais. Mais par contre, ce sera, comment est-ce qu'on appelle ça? Streamé. Donc, ce sera possible de voir ça, de regarder ça sur YouTube ou en ligne. Donc, ça, par contre, a priori, je le ferai.
On essaiera de communiquer autour de ça, de se faire un petit événement ensemble. On pourra peut-être se faire un Discord à plusieurs, non? Ça pourrait être
Ouais,
sympa.
ou faire un live pour commenter. Ouais, c'est une bonne idée,
Un
tiens.
live.
On peut essayer de voir
On a
ça.
du mal à faire un podcast, il veut faire un live, le monsieur.
Mais sinon, oui, un podcast à plusieurs aussi, ça pourrait être une bonne idée. À
Ouais,
voir un
mais
peu.
un live podcast enregistré qu'on passera après. Donc ceux qui assisteraient pourraient échanger avec nous et ça pourrait être sympa, non?
Ouais, bah écoute, pour ça, il faut que les ordinateurs ne nous plantent pas en plein milieu d'enregistrement. Donc, on a peut-être encore un peu de travail à faire de ce côté-là. Mais c'est une très bonne idée. Ouais, on va y réfléchir et on va essayer d'y travailler. Donc voilà, donc ça c'était les nouveaux appareils, mais j'en ai parlé un tout petit peu plus tôt. Il semblerait aussi que Google se mette à regarder de très très près Windows 10. Donc là encore,
Ouais.
on a des rumeurs autour de ça, pas forcément de, comment dire, de confirmation claire de la part de Google. Il y a des gens qui disent, donc sur XDA Developers, qui est un forum de développeurs Android et donc maintenant qui parle aussi beaucoup de Chromebook, il y a des gens qui disent que apparemment Google serait en train de travailler pour avoir une homologation de certains Chromebooks par Microsoft pour pouvoir faire tourner Windows. Donc là, c'est vraiment intéressant et très, comment dire, le monde est compliqué en fait quand on lit ce genre de news, parce que d'un côté on voit Google qui s'en prend directement à Microsoft dans une pub assez agressive qui critique tous les défauts de Windows. Et puis derrière, on lit une news qui nous explique qu'en fait, Google et Microsoft travaillent ensemble pour avoir le support ou au moins un support partiel de Microsoft, de Windows 10 sur Chromebook. Donc voilà, je sais pas ce que ça t'inspire, Nico. C'est encore une fois une rumeur et quelque chose qui n'est pas forcément super super clair aujourd'hui, mais il semblerait qu'ils y travaillent très 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 activement.
Ce que j'ai vu et entendu, parce que moi, ça fait plusieurs semaines, comme je te disais dans la présentation, que j'ai entendu parler de ça, je le suis. J'ai du mal à faire l'article, hein, comme je disais. C'est pour ça que vous ne le voyez pas sur Microbook, mais il est en cours de préparation. J'ai déjà fait au moins 4 lignes.
Au moins 4 lignes.
Bref. Ouais, au moins. Mais à chaque fois, je les efface, genre comment, j'arrive pas. Bref, peu importe, ça se trouve, je vais passer à travers, mais c'est pas grave. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, en fait, la fuite vient d'un Pixelbook. Hein. Il a été porté sur Pixelbook. Il y a eu des développeurs qui en parlaient. Donc, on s'est dit que c'était juste pour pouvoir avoir Windows, des outils Windows, enfin, qui tournent uniquement sur Windows pour les développeurs de Chrome OS et de Chromebook. Et voilà, à la base, personne s'était douté de « ouais, ça sera peut-être sur autre chose ». Et puis, les news sont de plus en plus proches et fortes. Et cette fois, on entend parler de Campfire. C'est un système de comment on appelle ça, de dual boot.
Dual boot, ouais.
Donc, ça serait pas, il ne fonctionnerait pas de la même façon que Linux. Hein. Et puis, Android, il faudrait booter ton Chromebook sur Windows.
Ouais.
Enfin, il ne serait pas intégré nativement. Ouais, c'est pas comment on appelle ça, un container, non, un conteneur.
Ouais, ouais, ouais.
C'est des choses bien séparées. Il faudrait booter sur Windows. Ça sera sûrement pas ouvert à tous les Chromebooks pour une simple et bonne raison. C'est qu'a priori, pour Windows, il faut 30 gigas de mémoire. Et pour Chrome OS, il en faut 10. Donc, ça veut dire qu'il te faut un Chromebook avec déjà minimum 40 gigas de mémoire, qui est pour l'instant assez tendu de trouver un produit avec tout ça. Et voilà, en fait, c'est un peu presque ce qu'on sait, enfin, ce que moi, j'ai réussi à récupérer. Et je ne sais pas, ça m'inspire quoi ? Ça m'inspire que du bonheur en soi, hein, parce que si j'ai des applications qui me manquent, aujourd'hui, avec Linux, je n'ai plus rien qui me manque, moi, personnellement. Mais si j'avais des applications qui me manquent, écoute, c'est réglé. Hein. Maintenant, on peut utiliser notre Chromebook pour faire ce qu'on veut.
Ouais, ouais, sachant que bon, cette histoire
en
de
tout cas, c'est à mon avis ce que je pense sur ce produit. Je sais pas toi, mais voilà.
Ouais, j'allais dire en fait l'histoire du dual boot.
Thomas.
C'est un peu. Allô, est-ce que tu m'entends?
Donc ouais, comme on vient de le dire, avec encore une succession de problèmes techniques aujourd'hui, décidément. Donc ouais, c'est juste du dual boot pour l'instant. Donc c'est pas exactement la même chose que comme tu le disais, Linux ou Android. Mais malgré tout, je pense que c'est une petite étape dans la bonne direction. Au moins, l'avantage, c'est que si tu as, mettons, du logiciel professionnel qui tourne que sur Windows, mais que tu as quand même envie d'utiliser un Chromebook à la maison le soir ou le week-end, eh ben, tu peux n'avoir qu'un seul ordinateur sur lequel tu vas faire tourner toutes les applications dont tu as besoin pour le boulot et en même temps utiliser un Chromebook en rebootant l'ordinateur.
Ouais, c'est parfait. C'est ce qui manque à ce qui va donner le petit plus, le petit coup de pouce à Chrome OS pour encore plus écraser Microsoft. Enfin bref, je sais pas si c'est l'objectif, mais en tout cas, tout le monde va pouvoir avoir accès à toutes ces applications, tous ces logiciels. Ça va être plutôt bien.
Ouais.
On parlait des Chromebooks, les nouveaux Chromebooks qui vont arriver by Google. T'en as parlé tout du long, c'était presque le fil conducteur. Ils vont aussi avoir des pixels, de nouveaux pixels, et apparemment, il y a quelques fuites assez intéressantes.
Ouais, en effet, c'est assez marrant en fait de voir que je sais pas exactement comment est-ce qu'on en est arrivé là, mais c'est vrai que le Pixel 3 a priori a bien fuité comme jamais. Il y a même alors j'ai pas vu le stream, mais apparemment il y a un blogueur tech ukrainien qui a carrément récupéré l'appareil, qui a fait un unboxing et tout ça. Donc on a a priori une bonne idée de ce à quoi l'appareil va ressembler, hein. C'est assez similaire à ce qui existe aujourd'hui en termes de pixels. Donc on a ce fameux deux couleurs et deux comment est-ce qu'on appelle ça, deux matériaux au dos, donc un matériau qui est un peu mat et un qui est un peu plus brillant avec du vert. On a toujours a priori le lecteur d'empreintes derrière. Il semblerait qu'il reste avec une seule optique pour la photo, ce qui est assez rare aujourd'hui, hein, sur les smartphones. En général, il y a beaucoup de smartphones qui commencent à avoir deux optiques et Google.
C'est bizarre d'ailleurs.
En fait, ce qui se passe, c'est que Google fait tout le traitement avec l'IA, en fait, pour le dire de façon rapide, mais le fait très très bien. Et aujourd'hui, le Pixel est probablement un des téléphones qui prend les meilleures photos. Moi, je me suis baladé toutes mes vacances avec mon appareil photo. Donc, c'est pas un réflexe, mais c'est tu sais, les les mirrorless là, qui est pas mal, mais malgré tout, bah, je me retrouve à faire plus de photos et faire presque même des plus belles photos avec mon téléphone parce que les réglages sont toujours bons en fait. Donc, ce que je me dis en fait, c'est ça, c'est que le téléphone est fait à la fois des très bonnes photos et en même temps fait tout le traitement photo qu'on ferait à la maison sur Photoshop quand on a une photo qu'on aime bien et qu'on a envie d'ajuster la balance des couleurs et d'ajuster le contraste et tout ça. Et ben Google va faire ça automatiquement avec l'intelligence artificielle embarquée dans le logiciel de photo. Et donc du coup, on se retrouve avec de très 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 belles photos quoi. Donc voilà, donc une seule optique et le fameux notch. Comment est-ce qu'on dit notch en français?
Une encoche.
L'encoche, merci. Donc la fameuse encoche en haut, donc ou l'infameuse encoche. On dit pas un fameux en français. Ouais, c'est ça le côté. Bah finalement, nous on est mieux qu'Apple. Nous on n'a pas besoin de ce notch et tout ça. Bah voilà. Bah finalement, tout le monde a, de la même façon que tout le monde a enlevé le jack pour l'audio, tout le monde s'amuse maintenant à faire des téléphones à encoche. Donc c'est un peu triste, mais en même temps, je pense que ça va être l'état de l'art sur les smartphones pour au moins les 2 ans à venir.
Ouais, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout d'encoche. Hein.
Voilà, exactement.
Donc ouais. Bon après, a priori, ce sera d'après pour Google, ils n'autoriseront les constructeurs que sur une seule encoche et pas deux et pas trois et pas quatre. donc ça a été dit, ça a fuité aussi, une seule encoche, pas plus. Donc dans Android. Donc c'est logique qu'il n'y en ait qu'une et puis qu'ils en aient une puisque tout le monde le fait. Après, vous verrez les images. J'attends de le voir en fait allumé, donc on l'aura sûrement dans nos Google Shop du début. J'attends de voir ce qui va être, comment il va être. J'aimerais bien le toucher cette fois parce que c'est difficile d'avoir un pixel en France.
Ouais c'est vrai. Un autre truc aussi, a priori le wireless, le chargement sans fil serait réhabilité par Google et serait sur ce pixel parce que dans le leak il nous parle de Pixel Stand. Donc, en gros, un chargeur, un dock, en fait, pour le chargement. Donc, voilà.
Parce que Apple l'a intégré dans son iPhone 10, peut-être.
Comment tu dis?
Parce que Apple l'a intégré dans son iPhone 10.
Ouais. Je sais pas exactement quel est le raisonnement, mais c'est vrai que c'est un truc qui existe sur le chargement, enfin, sur les téléphones Android depuis des années maintenant. Ça a même commencé sous Windows Phone, pour ceux qui s'en rappellent. Le chargement sans fil, enfin, la généralisation du chargement sans fil. Donc ça fait un moment que ça existe. Enfin, ça existait. Ça fait un moment que ça existe. Donc, je sais pas exactement ce qui va se passer. Est-ce que c'est juste un coup d'essai et en gros c'est le dernier baroud d'honneur pour le chargement sans fil sur les pixels, ou alors est-ce que c'est à partir de maintenant tous les téléphones seront chargement sans fil? Je suis curieux de voir un peu ce qui va se passer.
Moi, je pense qu'ils devraient tous l'être. Hein. Enfin, je pense que le chargeur filaire ne devrait exister que pour les charges longues la nuit. Il devrait, en fait, notre téléphone devrait même plus se charger du tout. Tu vois, j'imagine, tu vois Ikea qui a lancé ses tables de nuit avec de la charge sans contact. Tu poses ton téléphone, il charge toute la nuit. T'as pas besoin de t'embêter à avoir le chargeur. Ce qui serait bien, c'est que ça soit partout. Tu vas manger au resto, tu le poses sur la table du resto, ça charge. Tu vas au boulot, tu le poses sur ton bureau, ça charge. Et du coup, t'aurais plus jamais besoin de charger ton téléphone.
Donc peut-être qu'on va.
Donc ce serait plutôt, pour moi, c'est quelque chose qui est viable et qui a de l'avenir et déjà limiterait le nombre de chargeurs différents. Là, en Europe, t'en as peut-être pas entendu parler, mais ils vont s'attaquer à nouveau aux chargeurs universels. En Europe, il y a quelques années, on s'est attaqué parce qu'il y avait tous les formats différents. Samsung avait son format de chargeur, Apple un autre, LG un autre, et ainsi de suite. Ils sont attaqués et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a de l'USB-C ou du micro-USB. Donc le micro-USB, ça va disparaître au profit du USB-C. Et on le voit, hein, même Apple a utilisé l'USB-C pour ses MacBooks, dans mes souvenirs. Plein d'ordinateurs ont maintenant de l'USB-C, donc la norme est arrivée. Mais maintenant, l'Union européenne va se battre sur le truc que tu mets dans la prise, là, parce qu'ils sont différents. Là, je sais même le transformateur, je sais pas s'il s'appelle comme ça. Donc ça limiterait ces problématiques-là. Tout le monde a le même. Hein, la technologie sans contact, c'est de la technologie sans contact. Tu le poses et c'est réglé. La seule difficulté, c'est que c'est une charge lente par rapport à un chargeur. Donc peut-être qu'il faudrait qu'elle soit améliorée pour que tout le monde l'intègre directement dans ses smartphones. Mais je pense que c'est génial. Imagine, t'as un ordinateur qui charge sans contact et tu poses ton téléphone sur ton ordinateur qui est chargé par l'ordinateur qui est chargé par la table.
Ouais, non, c'est clair.
J'ai un autre. J'ai... J'ai un autre exemple, j'ai des oreillettes Bluetooth que j'utilise, voilà, peu importe. Ce qui me saoule, c'est qu'elles sont jamais chargées parce que j'oublie tout le temps de les charger. Elles tiennent 8-10 heures, hein, y a pas de problème, mais bah, au bout de 8-10 heures, bah, j'ai oublié de la recharger et je me retrouve sans. Alors que si je la pose sur la table, qu'elle se charge, bah, ça se charge et j'ai même plus besoin d'y penser. Donc, je chargerai mon ordinateur sur ma table sur lequel j'aurais posé mon smartphone, mon kit piéton et ma montre Bluetooth. Tout ça chargerait simultanément. C'est pas génial, ça?
Ouais, si. Tu nous décris la vision idéale du futur, hein, Nico.
Ouais, je sais, je suis visionnaire. Il y avait Nostradamus et il y a moi, je vous l'ai déjà dit, je crois, ça, d'ailleurs.
Donc voilà ce qu'il en est pour le Pixel 3. Donc, encore une fois, à suivre. Je pense qu'on va continuer à avoir des rumeurs d'ici le lancement, fin septembre, début octobre. Donc voilà, écoute, comme d'habitude, on a fait plus d'une heure, mais bon, je pense que c'est même plus la peine de le mentionner maintenant.
C'est ça.
Mais on arrive à la fin de.
Il n'y a qu'une fois qu'on a fait moins d'une heure, hein, quand même. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Et je veux pas dire, mais moi, je respecte mes engagements. Bref. Enfin bref, c'était génial. Donc on a retrouvé enfin Thomas. Merci d'être venu avec nous. On va vous laisser maintenant à vos occupations j'espère que cet épisode un petit peu en vrac parce qu'on a eu pas mal de problèmes techniques vous a plu. N'oubliez pas de nous soutenir. On est donc par des petits commentaires. On est toujours ravis d'avoir vos retours. On en a peu, on en a pas assez. Mettez des petites notes sur iTunes, notre concurrent direct. Mettez des étoiles, plein d'étoiles. On a parlé de Titan, ça vaut bien une étoile. Ça, on a parlé de Nocturne. Bah, Nocturne dans la nuit, il y a des étoiles. Bref, mettez des étoiles. Vous l'avez compris, on a même parlé de cuisine, quoi. Merde, mettez des étoiles. Les étoiles, t'es dans la cuisine, il y a des étoiles. T'as 5 étoiles, 2 étoiles. Nous, on en veut 5. Bref, mettez des étoiles. Des commentaires qui soient bons ou encourageants ou ils peuvent être mauvais, mais pour nous aider à aller dans...
Constructif.
Ouais, constructif. On comprend qu'on n'est pas bon, on n'est pas des professionnels du podcast. Ça fait qu'un an et demi qu'on fait ça. Faut remettre ça dans les contextes. Et on fait ça à titre sympathique et cordial entre nous, c'est tout. Donc, vous pouvez nous retrouver donc sur iTunes, mettez des étoiles. Vous pouvez nous retrouver sur Podmus. Cliquez sur le petit bouton plus 1. Vous pouvez mettre plein de plus 1. Partagez sur les réseaux communautaires, Twitter, Facebook, Google+. Et puis, même si vos amis n'ont pas de réseau communautaire, vous pouvez autour d'un repas leur dire « Tiens, tu connais les Chromebooks ?» Non, bah écoute, le CKB Show, s'il te plaît. Et si vraiment ça vous a plu, n'oubliez pas, vous pouvez participer à My Chromebook en écrivant des articles et je serai ravi de travailler avec vous, d'échanger, de partager nos passions en commun et puis de travailler des articles encore plus gros, encore plus construits. Et puis évidemment, on est sur Tipeee. Tipeee, bah, c'est encore plus parce que là, c'est carrément de l'argent. Donc, donnez-nous un café, un petit café, s'il vous plaît, à votre bon cœur, messieurs, dames. un petit Tipeee, ça nous permet juste de payer l'hébergeur du podcast et puis ça nous permet de continuer sereinement à échanger, Thomas et moi, avec vous sur les nouveautés. Enfin voilà, moi j'ai fait le tour, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Twitter, sur Nico Chromebook d'ailleurs, je crois c'est tout, sur My Chromebook, vous pouvez m'envoyer un mail sur contact@mychromebook.fr, me demandez pas tout de suite de répondre instantanément, il s'avère que vous êtes quand même nombreux à m'envoyer des mails, donc j'essaye d'y répondre toujours, mais des fois ça prend une journée ou deux, hein. Je suis désolé, mais je ne suis qu'un homme, et voilà, toi Thomas, on peut te retrouver un petit coup sur Telegram, on peut te retrouver toi sur Telegram, Thomas, au cas.
J'avoue que Telegram, ça fait un moment que je suis pas allé, mais je vais y retourner. Je vais essayer d'interagir le plus possible avec les gens. Ouais. Le décalage horaire aide pas beaucoup en fait, ouais. Mais c'est vrai que ouais, je vais essayer de m'améliorer un peu sur Telegram. Mais sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter @léthargiquepanda. Et puis je regarde aussi ce qui se passe sur le compte du CKB Show. Donc c'est CKB -. C'est SHOW, CKB -, show. Et voilà. Et merci encore pour vos retours. Et puis Nico, merci d'avoir assuré l'intérim tout seul comme un grand pendant que j'étais en vacances. Et puis voilà, là c'est bon, c'est la rentrée, donc on est de retour.
On est de retour. Merci à tous. Et puis je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.
À la prochaine. Ciao.